continuons le début. Salut.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Les humains sont, au même titre que les cochons, les fourmis ou encore les loutres, des animaux sociaux. Nous avons besoin de contact physique avec nos semblables pour nous sentir bien, sous peine de déprimer, de manquer de motivation, de se sentir triste ou seul. En un mot, l'absence de contact peut nous stresser. Et ce n'est pas l'année écoulée avec les distanciations sociales qui vont me contredire. Bienvenue pour la dernière du Labo des Savoirs, saison 2020-2021. Et oui, on voit enfin le bout de cette année assez spéciale où nous avons été malmenés, distanciés, privés de nos contacts affectifs et physiques hors de nos foyers. Fini les embrassades, les accolades, ces verres partagés, mais ces joyeusetés sont sur le point de revenir dans nos vies, moyennant de petites piqûres de rien du tout, encore un peu de gel et de masque dans certains lieux. Le retour à la presque normale est proche, les amis, et c'est pourquoi, pour cette ultime de la saison, on se devait de vous remettre dans le bain en parlant câlin. Entre nous, entre animaux, voire entre robots. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on se fait des câlins au final? Pourquoi est-ce qu'on aime autant se faire des câlins, prêts à s'enlacer autour de cette table? Eh bien, pour y répondre, aujourd'hui, nous retrouvons Célie Dubost.
Bonjour, Dunia.
Bonjour, Célie. Floriane Brémond.
Bonjour à tous.
Bonjour. Nolwenn Laroche-Pelletier. Et Jérémy Freixas.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices.
Quel bel accent.
Je m'entraîne, parce que j'ai besoin d'un accent du Sud, dans ma chronique.
Là, j'aurais plutôt dit un accent belge. Je pense que tu t'es trompé de Nord-Sud.
Merde.
Eh bien, le seul moyen de savoir ce qui va se passer, c'est de rester à l'écoute.
Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses.
Les câlins sont donc importants. Si importants qu'ils ont même une journée internationale. C'est un acte universel, mais qui peut prendre différentes significations, comme nous l'explique Célie.
Dunia l'a dit, il existe une journée internationale des câlins, et elle a lieu le 21 janvier. Cet événement, né aux États-Unis, est plus connu outre-Atlantique. J'ai toujours voulu placer ces mots quelque part, voilà qui est fait, sous le nom de National Hug Day ou National Hugging Day. Et d'après Wikipédia, c'est un révérend américain qui aurait instauré cette journée en 1986. Elle aurait été placée en janvier pour contrer la dépression saisonnière forte en cette période de l'année. Les câlins, ça fait du bien. Floriane vous en parlera plus en détail un peu plus tard dans l'émission. À l'origine, moi, je voulais vous parler de l'histoire des câlins. Quand est-ce qu'on a commencé à se câliner, comment, ce que ça signifiait, etc. Mais quand on cherche des informations sur l'histoire des câlins sur les internets, on tombe presque systématiquement sur « Une histoire et un câlin », un conte de Jean-Luc Englebert qui retrace l'histoire de Michel, à qui ses parents refusent une autre histoire et un autre câlin avant d'aller dormir. J'ai été un petit peu bloquée. Mais comme toute bénévole du Labo des Savoirs enthousiaste de proposer du contenu pertinent et de qualité, je me suis dit qu'à défaut de l'histoire des câlins, je pouvais vous parler d'histoire de l'art, et plus particulièrement des représentations des câlins dans l'art. Et là, j'ai été un peu plus chanceuse. Le musée d'art et d'histoire de la ville de Genève, en Suisse, propose une collection en ligne intitulée « Des câlins, quand l'art remonte le moral ». Dans cette collection, vous pouvez admirer 28 œuvres, dessins, peintures, sculptures, du XVIe au XXe siècle, des exemples d'affection entre des personnes qui s'aiment, des couples, des familles, des parents et leurs enfants. Il y a des étreintes pour se saluer, comme la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth sur une toile de Philippe de Champaigne intitulée « La Visitation », peinte vers 1650. Il y a des embrassades le temps d'une danse chez Heinrich Aldegrever en 1538. Il y a un couple espionné par des enfants curieux, immortalisé par Nicolas Toussaint-Charlet en 1826. Mais surtout, il y a la célèbre étreinte de Vénus et Adonis par Antonio Canova, l'artiste derrière l'œuvre Les Trois Grâces, également présentée dans cette collection. Cette étreinte entre Vénus et Adonis sera la dernière du couple, car le jeune homme parti à la chasse décède peu après. On retrouve Vénus à plusieurs occasions dans cette collection, notamment avec son fils Cupidon, le dieu de l'amour, que l'on retrouve lui dans les bras de Jupiter. Alors même si l'art montre des gens qui s'embrassent, se câlinent, les câlins restent dans certaines sociétés et cultures des actes intimes qu'on ne montre pas vraiment. Dans d'autres, c'est une marque d'affection, quasi banale, une manière de se saluer, un peu comme notre bise. Mais la géolocalisation n'est pas le seul facteur qui peut influer sur le câlin entre deux individus. Leur âge, leur relation, leur genre, le contexte sont des facteurs importants. Néanmoins, la culture du contact, haute ou basse, différente en fonction des familles, des cultures, des pays, peut affecter l'appréciation d'un câlin. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que faire des câlins, c'est entrer dans la sphère intime de certaines personnes. Donc faites des signes, parlez, demandez avant de faire un câlin par surprise. Il n'est peut-être pas le bienvenu, et le consentement, c'est important.
Et pour terminer ma chronique, j'aimerais vous poser quelques questions à vous autour de la table. Pour vous, c'est quoi la signification d'un câlin ? Est-ce que vous faites des câlins à tout le monde ou pas ? Ou juste aux personnes qui vous sont très proches ?
C'est vrai que pour moi, le câlin, c'est... ça peut être soit avec des amis qu'on n'a pas vus depuis un moment et avec qui on est assez proches. Et c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment cette... cette proximité et cette chaleur qu'il n'y a pas forcément lorsqu'on se fait une simple bise. Je l'associe aussi un peu à la notion de réconfort. Cette année, ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir prendre des gens dans mes bras parce que je sentais qu'en face, c'était difficile pour eux. Bon, il fallait se retenir, mais il y avait cette impulsion qui était là. Et pour moi, c'est aussi l'idée de dire ouais, c'est bon, en fait, on est ensemble et on se comprend, quoi. Il y a l'idée de créer une connexion par d'autres modes que juste la parole ou le regard. Le toucher, je pense, qui permet de faire passer des messages avec une autre intensité. Ouais.
Après, je trouve qu'il y a une différence entre vraiment prendre quelqu'un dans ses bras et toucher la personne. Parce que moi, je vais avoir tendance à toucher aussi un peu les bras, le dos parfois, mais pas forcément à faire des câlins embrassades plein bras. Quoi. Je ne sais pas comment trop décrire.
Si, mais il y a d'autres manières de se toucher sans être dans un corps à corps, rapproché.
Oui.
Et puis c'est vrai que c'est pas forcément la même chose aussi, parce que du coup, dans le câlin, il y a quelque chose où on est vraiment... les deux personnes se font un câlin, alors qu'on peut toucher l'autre en n'étant pas autant touché, en fait, selon la manière dont on échange.
Oui, moi, je trouve que c'est assez apaisant. Je travaille avec des enfants, et là, on voit... Enfin, on sent quand même qu'ils sont un peu plus tactiles aussi, un peu plus proche des gens. Et entre eux aussi, ils vont plus se toucher.
Oui, on peut aussi toucher le micro avec son masque. Ça marche bien.
Tu viens de câliner le micro avec ton masque. Autre forme de câlin auditif, cette fois, on va faire une première pause musicale. Et c'est Célie qui a choisi la première musique.
Tout à fait, Dounia, j'ai choisi le titre Fight de Silly Boy Blue parce que c'est juste un titre qui... est beau et que j'apprécie écouter. C'est doux, alors que c'est un titre un petit peu violent dans cette émission de câlin. Mais je sais pas, je me sens bien quand je l'écoute, donc j'ai décidé de la partager. Now, down, and I don't know what's on your mind.
science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
De retour au Labo des Savoirs, où on se fait des câlins pour la dernière de la saison. Bon, c'est bien joli de s'en faire, hein, d'ailleurs, mais est-ce que les câlins ont une fonction, Floriane ?
Eh bien, en théorie, oui, en fait, le câlin, ça remplit une fonction sociale et psychologique, même plusieurs. Ça permet de se rassurer, de s'encourager, de se montrer notre affection, de se consoler aussi, ou de se relier, de se rassembler, et beaucoup d'autres encore. En pratique, j'espère que vous n'aurez pas à chercher bien loin dans vos souvenirs pour retrouver des fois où un câlin vous a donné l'énergie de continuer et de persévérer, de vous reposer et de déposer ce que vous aviez sur le cœur, ou bien juste de profiter d'un moment de plaisir et de ressourcement partagé. Je l'espère pour vous, tout en sachant que la culture occidentale tend à inhiber ce comportement naturel. Moi-même, je ne sais pas comment j'en étais venue à ne plus faire de câlins, mais j'observe tristement régulièrement autour de moi des rejets, des retenues et des remarques du style « Eh, y a du monde autour !» ou « Tu commences à être grand, arrête de faire ton bébé !» C'est finalement mon compagnon et des amis qui m'ont réappris à faire des câlins. Ce faisant, je me suis aperçue que j'aime ça et j'ai vraiment ressenti combien ça me faisait du bien. Or, je prends clairement mon cas pour une généralité. Si les câlins nous font cet effet et si nous y avons recours dans des contextes listés précédemment, quand, bien sûr, nous osons nous y autoriser, on peut supposer qu'ils ont une fonction dans notre survie.
Mais cela voudrait dire donc que les câlins ne seraient pas qu'un truc de bisounours, mais plutôt un outil de régulation de notre activité psychique et physiologique ?
Eh bien, c'est en effet l'idée. Céline Rivière est psychologue clinicienne et neuropsychologue. Elle est aussi l'autrice du livre « La câlinothérapie, une prescription pour le bonheur », dans lequel elle aborde en toute simplicité les différents mécanismes et effets liés au câlin. Diverses équipes de chercheurs à travers le monde se penchent aussi sur les effets du toucher sur la santé psychique et physique. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet d'aller voir le documentaire intitulé « Le pouvoir des caresses, le toucher, un contact vital » qui sera disponible sur Arte à partir du 3 juillet. D'après ces sources, il s'avère que l'effet d'un câlin ne sera pas le même selon que l'on se serre dans nos bras avec une amie pas vue de longue date, que j'enlace par surprise mon compagnon concentré sur son travail et qui a des choses à finir, ou que j'échange un free hug avec un inconnu dans la rue. En fait, pour qu'un câlin ait un maximum d'effets bénéfiques, il faut que les personnes qui l'échangent soient consentantes, en confiance et dans l'idée mutuelle d'échanger un câlin. Partons donc du principe que le câlin se passe dans un contexte optimal, c'est-à-dire que les deux partenaires partagent un lien affectif et le câlin sera mutuellement consenti.
Et comment alors on étudie les effets du câlin et qu'on en distingue un peu les effets ?
Eh bien, pour les étudier, en fait, les 10 câlins peuvent être découpés en 3 étapes. La première qui sera toute la communication et tous les échanges qui vont précéder le contact. La seconde qui sera celle du contact physique même. Et la troisième qui va consister à tout ce qui prépare, initie et a lieu pendant la séparation. Et donc c'est selon ces mêmes découpages que je vous décrirai par la suite les effets des câlins. Donc si on commence par la première étape, il s'agit ici de tout ce qui précède, comme j'avais dit tout de suite, et initie le contact physique. Donc par exemple, les partenaires de câlins se voient et se sourient, ou l'un d'entre eux manifeste un mal-être avec une grimace ou des larmes, ou voilà. L'un envoie le signal qu'il souhaite faire un câlin en écartant les bras et en s'avançant, et l'autre est d'accord, il ouvre à son tour les bras et finit de rejoindre son partenaire. Ce premier échange constitue déjà en soi un moment très riche. Les neurones miroirs permettent le renforcement des phénomènes d'empathie, de partage et d'apaisement des émotions. Et finalement, ce moment qui précède le contact physique signifie que les personnes se font confiance, sont disponibles, tirent des émotions positives de la présence de l'autre et s'acceptent. Chaque personne impliquée va ressentir alors une plus grande confiance en elle et en l'autre, le sentiment rassurant de se sentir soutenu, et éprouver une montée d'émotions positives comme la joie, la solidarité, la tendresse ou l'attachement. De l'ocytocine est également libérée dans le corps à cette occasion, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est qu'un câlin commence à agir avant même le contact physique qui le caractérise généralement dans nos représentations, et c'est déjà à ce stade un concentré d'effets positifs sur le psychisme.
Et c'est quoi la suite ? C'est quoi l'étape 2 ?
La deuxième étape, elle envoie aussi du pâté comme la première. La seconde étape, en fait, c'est celle durant laquelle le contact physique est en cours. Les partenaires de câlin se serrent l'un contre l'autre, peut-être se tapotent-ils ou se frottent-ils le dos. S'ils sont amoureux, ils ont probablement trouvé une manière de se câliner en maximisant la surface de contact entre leurs deux corps. Bref, cela leur appartient. Et selon le type de contact et d'échange, différents capteurs sensoriels vont être sollicités. Je ne les détaillerai pas dans cette chronique car ce serait beaucoup trop long. Par contre, ce qui est intéressant à regarder, c'est la liste des bienfaits attribués à ce contact, qui elle aussi est très longue et qui me semble aussi beaucoup plus intéressant. Donc je l'ai déjà expliqué un peu plus tôt, les effets des contacts physiques sont modulés par le type de contact échangé, le contexte dans lequel il survient, la force et la nature du lien. À condition qu'il dure au moins 20 secondes, un câlin coche positivement toutes les conditions optimales pour maximiser les effets positifs d'un contact. Et donc, au cours de cette seconde étape du câlin, donc, les stimulations sensorielles perçues sont remontées jusqu'au cerveau, déjà averti par l'étape 1 et prêt à interpréter favorablement ces sensations. Le cerveau va ensuite envoyer des messages nerveux via le nerf vague et induire par son biais une diminution rapide des fréquences cardiaques et respiratoires ainsi que de la pression artérielle. Et puis, parallèlement au fonctionnement de ce nerf vague, le cerveau, et plus particulièrement l'hippocampe, va libérer une neurohormone appelée ocytocine. Alors, pour ceux qui s'en souviendraient, ou pour les autres qui ne s'en souviennent pas, j'en avais déjà parlé de cette ocytocine au cours d'une émission qui s'appelle « La science des vacances », dans une chronique qui s'appelait « Vive le stress ». Et c'est vraiment une émission qui est très très chouette, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter. Bref, j'en reviens à nos moutons, c'est-à-dire les câlins et l'ocytocine.
Oui, donc l'ocytocine, tu en avais parlé un peu plus tôt et aussi dans cette chronique des vacances. Mais qu'est-ce que c'est et quels sont ses effets sur l'être humain ?
Eh bien, en fait, l'ocytocine, c'est une neurohormone. Donc, neuro parce qu'elle vient du cerveau, qu'elle est libérée directement par les neurones. Et une hormone parce qu'elle va être diffusée dans le corps et avoir une action à distance. Cette ocytocine, on l'appelle aussi hormone de l'amour. Et en fait, elle a plein de fonctions. Donc, les premières, elles vont être physiologiques. Cette ocytocine, elle agit en diminuant la fréquence cardiaque et respiratoire, en diminuant la pression artérielle et en stimulant le processus réparateur au niveau du cœur, ce qui est plutôt sympa en soi. Son effet, il est plus lent, mais plus long que celui du nerf vague, d'où la double action. Et l'ocytocine, elle a aussi des effets au niveau psychologique. Donc elle a un effet apaisant, ça stimule la sensation de bien-être. Elle stimule aussi l'empathie, l'attachement et la recherche de compagnie. Autrement dit, et c'est là que c'est intéressant, elle stimule les comportements sociaux qui auront les mêmes effets positifs que ceux décrits lors de la première étape et qui vont eux-mêmes induire à leur tour la libération de d'ocytocine. Donc il y a une boucle un peu comme ça qui s'auto-entretient et qui se renforce. Avec cette boucle, en fait, l'ocytocine, elle joue un rôle à la fois de régulation psychique, mais aussi du coup de prévention sociale. Et enfin, et ça c'est pas des moindres en ce moment, l'ocytocine participe au renforcement du système immunitaire. Des câlins réguliers participent ainsi à la prévention d'un grand nombre de maladies. Et puis, comme on dit jamais 203, il est maintenant temps d'étudier l'étape 3 du câlin et ses effets. Pour rappel, cette étape 3, il s'agit de la séparation. Les partenaires vont généralement échanger un mot ou un geste code pour signifier combien ils s'apprécient, ont apprécié cet échange ou qu'il a duré suffisamment. Cela peut être un merci, un ça faisait longtemps, un dernier tapotis qui glisse du dos à l'épaule ou encore un bisou. Bref, les possibilités sont larges. Cet échange vient généralement marquer la fin du câlin et coordonner la rupture du contact. Comme je n'ai pas trouvé de source fiable ou d'études sur le sujet, je ne vais pas inventer du pipeau pour meubler cette troisième étape. Simplement, j'imagine que cette troisième étape mêle des effets similaires à ceux de la première et de la deuxième étape des câlins. Après, si vous voulez imaginer d'autres effets bonus, libre à vous. Personnellement, j'aime à imaginer cette troisième étape comme une transition plutôt qu'une fin, avec l'idée qu'un bon câlin laisse la place à des échanges plus profonds et plus sincères par la suite. En tout cas, maintenant, c'est confirmé. Les câlins favorisent la bonne santé physique en modulant des activités physiologiques et en stimulant les fonctions immunitaires et réparatrices. Ils favorisent également la bonne santé psychique en permettant une forme de partage social des émotions, en majorant les compétences relationnelles et l'estime de soi. Bref, lancez-vous autant que le Covid vous le permet. Faites des câlins pour vous, mais également pour le bien de vos proches.
Faites des câlins, je trouve que c'est une parfaite conclusion. Merci Floriane de nous montrer à nouveau que ça fait pas juste du bien comme ça, mais il y a une véritable fonction psychique, physiologique, et tout quoi. Aurais-tu un câlin musical à nous proposer aussi pour nous accompagner vers la suite de l'émission ?
Eh bien, j'avais pensé à Le chat de Powo, qui décrit finalement un personnage qui a envie de passer sa vie à faire des câlins et à être un chat pour rester avec celle qu'il aime.
Eh bien, restons un chat avec Powo.
Moi vouloir être un chat. Ma volonté contre tes bas. Je me ferai encore pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait. Je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être le chat. Toi qu'il soit quand je te vois. Moi vouloir être le chat. Retrouver sur les gouttières mes copules de litière. Me toujours rester à toi. Prendre des minchafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être le chat et ne risquer de tes doigts que le caresse sur moi. Quand dehors il fait froid, attendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera
des sciences au Labo des Savoirs.
Les humains ne sont pas les seuls à chercher la chaleur des autres corps. Si on peut penser aux manchots qui se collent entre eux pour se réchauffer, ce n'est pas la seule espèce à plumes à se comporter ainsi, d'après Nolwenn.
Des vidéos virales d'animaux mignons et attendrissants, ça nous est tous passé sous le nez à un moment. Certaines et certains en sont même complètement gaga. Il faut dire qu'il y en a vraiment quantité. Des chats entre eux ou avec d'autres animaux comme des chiens ou des chevaux. Les oiseaux ne sont pas en reste pour manifester une forme d'attachement. De nombreuses compilations vidéo sont dédiées aux perruches de compagnie qui demandent ou font des papouilles à leurs propriétaires. Il y a même quelques individus de perroquets sauvages, peu farouches, qui sont parfois filmés sur plusieurs jours de suite, à se familiariser avec une personne jusqu'à se lever contre elle pour des caresses. D'autre part, il n'est pas rare que les oiseaux rescapés par des centres de soins ou des particuliers tissent des liens avec leurs bienfaiteurs. Prenons l'exemple du corbeau abandonné lorsqu'il était oisillon et qui fut recueilli par un Anglais qui le prit sous son aile pour le nourrir et prendre soin de lui. L'animal est totalement libre de voler et de se déplacer. Et il est accro des gratouilles sous le bec et des caresses de celui qui se définit comme son père. Plus surprenant encore, l'histoire d'une Australienne travaillant dans un organisme de sauvetage de la faune sauvage. Cette bénévole prend le temps de mettre en confiance les oiseaux, d'abord en leur parlant, puis lorsque les liens se sont tissés, elle s'assoit dans l'enclos et caresse l'autruche qui vient se coucher devant elle. On peut trouver sur son compte TikTok plusieurs vidéos dans lesquelles des autruches s'endorment littéralement dans ses bras alors qu'elle est câline. D'après l'expérience de cette Australienne, il semblerait qu'aussi chez les autruches, un gros câlin est un rôle d'apaisement.
Et le point commun entre tous ces exemples, ce sont des interactions entre êtres humains et oiseaux.
Laissez-moi alors vous parler de l'espèce qui, à mes yeux, est la plus câline du monde. Petite description de la boule de plume en question. Avec à peine 30 cm de hauteur pour le modeste poids de 160 grammes, la chouette chevêche ressemble à deux grosses pommes empilées l'une sur l'autre. ce rapace a plutôt bonne réputation malgré son affiliation à la nuit. En réalité, ce strigidé est aussi actif le jour. Elle est également appelée chevêche d'Athéna, car fut choisie par les Grecs pour être l'acolyte de la déesse de la sagesse. Mais je m'égare, revenons-en au sujet du jour. Lorsque deux adultes se lancent à la recherche d'un ou d'une partenaire, et qu'ils le ou la trouvent, les deux oiseaux formeront le couple tout le long de leur vie. Toutefois, ils ne vivent pas toute l'année ensemble. Cette petite chouette a quand même besoin de moments en solitaire. Mais quand l'hiver tire sur sa fin, le mâle commence à interpeller la femelle par des ululements. D'ailleurs, il n'est pas rare que même durant la mauvaise saison, les deux oiseaux restent en contact de cette manière. Le territoire des deux partenaires étant juxtaposé, la femelle rejoint le mâle selon son gré, à peu près au mois de janvier. Et une fois que les deux oiseaux se retrouvent, la majorité de leur temps est alors dévolue aux papouilles et câlins en tout genre. Ce n'est pas compliqué, ils ne se lâchent plus d'une semelle. Et vas-y, que ça se gratouille, que ça se lisse les plumes, que ça se bécote. Si le mâle ne partait pas de temps en temps chasser des cadeaux pour sa belle, les deux osios passeraient tout simplement leur journée à se faire des câlins et des mamours. Avec cet exemple, on peut se poser la question du rôle des câlins dans l'attachement et le renforcement du lien chez la chouette chevêche. En tout cas, quand je constate toute l'affection dont les deux amoureux se font preuve, je verrai bien la chouette chevêche remplacer la colombe comme icône du couple éternel.
Merci Nolwenn pour ce moment câlin à plume. Pour poursuivre, tu as choisi Carry Each Other de Leagues. Pourrais-tu me dire pourquoi cette chanson ?
Premièrement parce que les basses, ou du moins les tonalités graves, me font penser à des battements de cœur. Je trouve ça chaleureux. Et surtout parce que les paroles décrivent une relation, mais elle n'est pas précisée si c'est une relation amicale, amoureuse ou familiale. Ce qui fait que cette chanson, elle correspond à n'importe quel moment où on a besoin d'un réconfort de la part de quelqu'un d'autre. I can tell that you are lonely. I get lonely too. A passing cloud. Some days it never moves. We could carry each other, carry each other. It's what we're meant to do. We could, we could, we could carry each other, carry each other. Lift us up.
Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
Vous êtes toujours au Labo des Savoirs, une émission toute câline qui a survécu au confinement. Et au cas où cela pourrait se reproduire, même si on espère très fort que non, vaccinez-vous. Tout ça. Jérémy Frexas aurait une solution.
Imaginez un monde peut-être pas si lointain. Les gens sont isolés, calfeutrés chez eux afin d'échapper à un mal invisible. Les interactions les plus basiques que sont la poignée de main ou les embrassades ne sont plus possibles. La majorité de nos échanges sociaux se fait à travers des écrans, face à webcam ou à un clavier. Le salut viendra de 2 injections à 3 semaines d'écart ou d'un messie à l'accent du sud ayant 400K abonnés sur YouTube. Bon, je m'emballe là. Mais vous l'avez compris, ce monde lointain, on est en plein dedans. Et figurez-vous que cela donne du grain à moudre, notamment aux scientifiques qui travaillent dans le domaine des interfaces haptiques. Mais qu'est-ce que c'est que haptique ? Ce terme qualifie les travaux de recherche qui portent sur le sens du toucher. Cette description colle à de nombreux dispositifs. Les écrans tactiles, les manettes de jeux vidéo, les casques de réalité augmentée avec retour de vibration ou les robots. Et c'est de cela dont je veux vous parler aujourd'hui, de robots. Mais pas n'importe quel robot, des robots qui font des câlins. Mais pas n'importe quel câlin, des câlins régis par les 6 commandements édictés par la doctorante Alexis Bloch lors d'un exposé « Design and Evaluation of Human-Sized Hugging Robots with Visual and Haptic Perception » lors de la conférence internationale sur les interactions humains-robots organisée en 2021 par ACM et I3E.
Et donc ce ne sont pas 12 ni 13, mais bien 6 commandements pour un bon câlin.
Tout à fait, Dounia. Et je propose de mettre à contribution les personnes autour de la table de ce que pourraient être ces 6 commandements du câlin scientifiquement prouvé.
Le premier commandement, c'est, comme disait Florian tout à l'heure, la vue, comment on approche la personne et les signes qu'on met dans « on va faire un câlin ». Après, je vois un truc sur la force de l'étreinte, un truc comme ça. Et j'en ai un troisième sur partir du câlin, genre sortir. Mais les 3 autres, je pense qu'ils sont quelque part. Mais
j'imagine quelque chose autour de la texture de ce à quoi on fait un câlin. Enfin, je pense à l'expérience de Harlow avec les bébés singes qui passaient sur la fourrure plutôt que sur le métal. Et du coup, j'imagine que quelque chose de doux ou de moelleux ou de chaud, c'est plus agréable qu'un truc froid et dur.
Faut pas que t'aies l'impression de faire un câlin à un robot, peut-être.
C'est ça.
Un truc pas humain.
Ouais. Vous avez trouvé 5 des 6 commandements.
Alors...
Bravo.
Donc il nous en manque un encore.
Bah, je peux vous guider si vous voulez. Mais bon, le troisième...
Quelque chose sur la durée.
C'est pas vraiment la durée. Après, la durée, finalement, ça rejoint ce que disait Célie sur le fait de... Quand on veut s'arrêter, il faut que ça s'arrête. Alors, premier commandement. Un câlin moelleux ou doux. Donc, soft en anglais. Donc, je le traduis de manière assez maladroite. Hein.
C'est un savane. T'es en train de faire un câlin à un savane.
Mais écoutez, tout le monde aime faire des câlins à Pépi Brossard.
C'est Georges, mon yeti, il est doux.
Il est frais.
Il est frais.
Et pas pratique.
Et justement, le deuxième commandement, ce n'est pas la fraîcheur, mais c'est la chaleur. Bien vu. Donc l'idée d'avoir une impression de, justement, de pas être quelque chose d'une machine à température froide ou ambiante. Quatrième commandement. Alors, le robot détecte l'avancée d'une personne et se lance dans un câlin sans qu'elle n'ait besoin d'appuyer sur un bouton ou sans qu'un tiers doive actionner le robot. Donc c'était... tout à fait ce que tu as dit, Célie, le fait de reconnaître en fait et d'avoir une invitation en fait à faire un câlin. Cinquième commandement, le robot s'adapte à la corpulence de la personne, donc il y a l'idée justement d'avoir une étreinte adaptée. Et sixième commandement, le robot détecte lorsque la personne veut que le câlin se termine. Alors comment maintenant concrétiser tout ça ? Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va reprendre les commandements un par un et on va voir techniquement comment l'équipe d'Alexis Bloch à essayer d'implémenter ces différentes contraintes dans notre robot. Alors, un câlin robotique moelleux. Bon, ça, j'imagine que vous le visualisez un petit peu. Comment est-ce qu'on peut faire ça ?
Tu prends un robot, tu l'entoures de coussins avec du scotch.
Et pas moelleux, le scotch. Moelleux.
On est pas loin.
Ah !
Huggybot 2.0, c'est son petit nom, est une sorte de buste placé sur un genre de trépied. Alors, ce buste, il est doté de bras articulés robotisés et d'un écran comme tête. Pour le rendre doux, l'équipe de recherche du Max Planck Institute et de l'ETH Zurich lui ont créé un torse et des bras gonflables. Donc le tout est habillé ensuite par un sweat gris, des mitaines et une jupe violette. Alors Krishna Kandula n'a pas encore validé cette tenue, mais cela lui donne un air plutôt avenant, surtout lorsque son écran affiche un smiley sourire.
Ce qui est marrant, c'est que j'avais vu les photos et je pensais que c'était des chaussettes de ski qu'il avait tellement les mitaines sont longues et juste en forme de boudin, quoi.
Mais après, j'ai l'impression que le bras est assez basique. Je sais pas s'il a des mains.
Non, je pense pas.
Et donc, ça fait un peu, chaussette, quoi. Donc là, on vient de parler du doux. Parlons maintenant du chaud. Peut-être avez-vous dans vos tiroirs ces coussins chauffants pour le dos. Bah, figurez-vous que le torse et le dos de notre robot en sont recouverts. Donc on sent vraiment le bricolage, mais ça a l'air de bien marcher. Alors pour la taille, là c'est simple, c'est une question de hauteur du trépied. Donc dans l'étude qui est réalisée, le robot mesure 1m75. Alors je crois, Célie, que t'es pas très très forte pour estimer les dimensions. Donc 1m75, c'est à peu près 1,5 fois Agathe Petit. Voilà.
C'est ma taille.
Ensuite, vous vous souvenez, le robot doit détecter la personne et l'inviter spontanément. J'ai fait des guillemets avec mes doigts, à faire son câlin. Alors, comment faire? Alors, en fait, ce robot est équipé d'une caméra et d'un algorithme de détection d'objets en temps réel. Dès lors qu'un être humain passe dans son champ de vision, il est donc en mesure de le reconnaître. Ses bras commencent alors à s'actionner, invitant à venir lui faire un câlin. Donc, en fait, il prononce une phrase. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il dit, mais c'est « Est-ce que je peux te faire un câlin ?» ou un truc comme ça. Le robot doit aussi s'adapter à la corpulence de la personne. Alors pour y arriver, chaque bras va avoir son propre capteur d'effort. Donc lorsque le bras robotique va commencer à toucher la personne câlinée par le robot, ce dernier va sentir une résistance et donc le bras robotique aura plus de mal à avancer. Dès que la résistance dépasse un certain seuil, le bras s'arrête. Cela permet d'avoir une vraie sensation d'embrassade, mais sans être pleinement comprimé. Et enfin, vous vous souvenez, le dernier commandement ?
Il faut arrêter le câlin.
Exactement. Il faut arrêter lorsque la personne veut s'en aller. Et là, pareil, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc là, notre robot malin a deux moyens. Le premier, c'est un capteur de pression au niveau de son torse gonflable. Quand la personne commence à reculer, la contrainte sur le torse diminue et donc le robot comprend que le câlin doit se terminer. Le second est un capteur de contrainte dans le bras. Là, pareil, au moment où la personne souhaite partir, la contrainte sur le bras va s'accentuer et donc le câlin doit aussi s'arrêter.
Donc, ton robot là, avec ses mitaines, sa jupe violette, ses patchs thermiques collés sur le dos et tout, c'est censé représenter la recette ultime pour le câlin parfait. Est-ce qu'il y a des gens quand même qui ont étudié l'efficacité de ces commandements et de ce petit robot?
Exactement, c'est d'ailleurs l'objet de cette étude. Donc l'idée de cette étude, c'était de voir si ces commandements permettaient vraiment de faire une expérience agréable pour des personnes qui vont câliner ce robot. Donc il a été demandé à un échantillon de personnes de répondre à des questions avant de rencontrer HuggyBot 2.0. Donc une série de plusieurs câlins a été ensuite réalisée, et pour chacun de ces câlins, certaines des options ont été activées et d'autres désactivées. Donc par exemple, le robot pouvait détecter à l'aide de sa caméra l'arrivée de la personne, mais n'avait pas son capteur d'étreinte activé et les bras s'arrêtaient donc automatiquement. Après chaque essai, les cobayes indiquaient leur satisfaction suite à leur expérience câlinatoire. Et alors, que s'est-il passé? C'est lorsque les 6 commandements sont remplis que les cobayes semblent afficher la plus grande satisfaction. Leur sentiment de confiance et d'attirance est mesuré avant et après l'expérience, et de façon générale, elles progressent. Alors vous vous dites, a-t-on trouvé câlinator? Celui à qui personne ne pourra résister? Alors, pas si sûr, l'équipe indique un biais. Le thème de l'étude était annoncé au moment du recrutement. Il est donc probable que ce soit des personnes déjà curieuses, voire attirées par les robots qui ont participé. En fait, ce que pointent les auteurs, c'est que, et les autrices, puisque à l'origine c'est une doctorante qui fait ses travaux, c'est qu'en fait personne n'a refusé de faire l'expérience. Et ils s'attendaient, enfin, on aurait pu s'attendre par exemple à ce que des gens soient recrutés de manière un peu floue sur participer à un travail scientifique, et qu'il y en a qui refusent de faire un câlin à un robot, et là personne n'a voulu refuser. Mais ce résultat leur semble toutefois encourageant. Alors l'exploration ne peut pas s'arrêter là, car il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, en introduction de ces travaux, l'équipe met en avant les bénéfices des câlinades et les risques à ne pas en recevoir suffisamment, comme nous l'a indiqué Floriane juste avant. Et de l'autre, Elle propose une solution robotisée à travers notre bon vieux HuggyBot 2.0 en surfant sur l'isolement subi en ces temps de pandémie, notamment préoccupant pour les personnes fragiles. Mais ces câlins artificiels apportent-ils les mêmes bienfaits que les câlins entre deux êtres vivants ? Ce n'était pas l'objet de cette étude, et je dois avouer que je n'ai pas eu le temps de voir si la question avait été étudiée par ailleurs. Une chose est sûre, j'ai maintenant hâte de retrouver les bras de mes proches.
Eh bien merci Jérémy, puis je te souhaite également de retrouver les bras de tes proches plutôt que de Huggy. Et même si ça me faisait penser à une série, donc j'ai retrouvé le nom qui s'appelait Real Humans, où tu avais justement des robots de compagnie qui s'appelaient des Q-Bots, des Human Robots, que tu pouvais câliner et tout. Et justement, c'était un des thèmes de la série, des gens qui étaient littéralement tombés amoureux, qui étaient vraiment attirés par ces robots très, très humains.
C'est vrai qu'en fait, ce que je me suis dit avec cette expérience, c'est que c'est un câlin très algorithmique, en fait. Disons que pour le robot, ça n'a pas de sens, ce geste. Lui, en gros, ce qu'il sait juste, c'est détecter des personnes, lever les bras, dire « faites-moi un câlin ». Et après, il a des capteurs de pression pour limiter l'étreinte. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de sens pour... je ne sais pas si on pourra un jour donner une entité artificielle pourra donner un sens à ce geste. Mais en tout cas, pour lui, tout est préprogrammé, en fait. Il n'y a pas de spontanéité, vraiment, quoi. Puis il fera des câlins à tout le monde, quoi. Même s'il y a des gens, par exemple, qui lui foutent des coups de pied ou qui lui disent « ta jupe est moche », ils auront quand même un câlin de HuggyBot.
Je pense qu'il pourrait apprendre à faire des câlins, genre... ceux qui aiment être tapotés un peu dans le dos, ceux qui aiment être très serrés ou pas assez, tu vois, qui est un apprentissage.
Pour préparer cette émission, j'ai lu l'article que je cite là, et en fait, il y a aussi une conférence qu'on peut trouver sur Internet qui est donnée par la directrice de thèse de Alexis Bloch, dont le nom m'échappe malheureusement. Et donc, elle parle de plein de projets sur les interfaces haptiques, et notamment de ce projet, et elle dit qu'il y a des travaux en cours pour trouver 4 nouveaux commandements qui seront publiés dans un article à venir, teasing. Et il y a notamment des nuances en fait, qui sont apportées dans le câlin. Et donc, par exemple, ce qu'elle a dit, c'est que si jamais la personne secouait un peu le robot allait secouer un petit peu en retour aussi. Et donc, l'idée, c'est de mettre un peu de variante dans le câlin et de ne pas faire juste des bras qui enveloppent, mais de rajouter un peu de façon mimétique des gestes différents. Mais après, ça reste toujours algorithmique, même si apparemment elle avait l'air de dire dans sa présentation que c'était très agréable pour les personnes qui s'y lançaient.
Ça me fait penser à dans le soin, dans certaines institutions où les patients sont isolés, il existe déjà en fait des systèmes de poupées ou de petits robots qui vont soit stimuler l'empathie, le bien-être, la détente à travers des câlins, soit stimuler la communication à travers des robots qui parlent avec des écrans aussi de visages expressifs, des choses comme ça. Et où finalement, pour certains espaces de soins, c'est déjà utilisé, soit pour remplacer l'absence de personnes humaines avec un lien d'attachement aux personnes, soit pour faciliter l'émergence de comportements sociaux chez des personnes qui ont une carence dans ces comportements-là. Vraiment, je mets carence entre grosses guillemets parce que c'est un point de vue dans les soins, mais c'est pas le point de vue de tout le monde.
C'est vrai que dans l'état de l'art justement de cet article, il est distingué 3 catégories de robots. Les robots qui sont un peu genre des peluches 2.0 et qui vont avoir un peu d'interaction, mais qui n'ont pas forcément de retour. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais un câlin à la peluche que la peluche va te faire un câlin. Et après, il y a des objets qui n'ont pas vraiment une forme humaine. Enfin, c'est plus des choses qui vont provoquer justement des stimulations. Et eux, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était quelque chose qui a l'apparence humaine et qui rend le câlin. C'est pas quelque chose qu'on va juste câliner, mais c'est quelque chose aussi qui va nous câliner. C'est ça qu'ils cherchaient à faire. Et apparemment, c'est ça qui fait l'originalité de cette démarche. Après, c'est vrai que je trouve que sur ces projets technologiques, c'est toujours compliqué, en fait, parce que même si l'objet en lui-même est vraiment impressionnant, eux, leur boulot, c'est de fabriquer des trucs, c'est pas d'en mesurer les effets. Et donc, c'est toujours après compliqué de voir à quel point est-ce que la cause qui provoque dans l'histoire qui est racontée le développement de tels objets est vraiment satisfaite, entre guillemets, par le développement d'un tel objet.
Après, ça peut être validé plus tard dans une expérience de terrain.
Tout à fait, ouais, c'est d'autres métiers, hein. C'est d'autres disciplines après. Et je dis pas que. Enfin, en tout cas, encore une fois, je suis pas du tout expert de ces thématiques-là. Et c'est pas pour dénigrer, c'est juste que pour moi, il y a vraiment deux temps. Et là, c'est le temps de la faisabilité. Et ensuite, il y aura le temps de ce que ça apporte, quoi.
Et aurais-tu une musique à nous proposer pendant qu'on fait un gros câlin à Huggy?
À Huggy, je nous propose d'écouter Lovers on the Bench d'Essen Corvin. Pourquoi? C'est ça la question.
Pourquoi?
Parce que je trouve qu'elle est toute choupie. Et je trouvais que c'était du coup dans le thème de l'émission. Et en fait, il s'agit du frère de la femme d'un pote. Du coup, je trouvais ça cool aussi, tu vois, de faire genre j'ai de l'influence et je peux le faire passer à la radio. Voilà.
Dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
Dernière partie avec nous au Labo, toujours avec Célie, Floriane, Nolwenn et Jérémy, qui vous ont montré les câlins sous toutes les facettes. On aurait aussi pu en parler d'une façon, disons, un peu différente, dirons-nous, comme la coalescence. C'est une manifestation physique quand deux substances ou deux astres identiques se rassemblent et finissent dans une union. Un phénomène qui va des gouttes de pluie au trou noir, mais qui s'éloigne un petit peu des câlins. Nous n'avons pas non plus parlé de la sylviothérapie, la pratique des câlins faits aux arbres et qui aurait, et imaginez-moi faire plein de guillemets avec mes mains, des vertus anti-stress pour renouer avec la nature alors que nous vivons dans ces villes urbanisées. Si des balades en forêt peuvent en effet faire baisser votre anxiété et vous faire du bien, rien n'a été prouvé quant aux bienfaits des frottis-frottas contre les arbres et qui seraient même dangereux. Qui sait sur quoi vous pourriez tomber lors de ce contact rapproché? Chenilles urticantes? Champignons? Mousse et feuilles pouvant provoquer des allergies, voire des guêpes, des frelons et des serpents? Eh bien, câliner un arbre n'a pas forcément d'effet bénéfique. Les vrais câlins, eux, ceux qui nous permettent de nous maintenir en bonne santé mentale et physique, qui nous ont manqué cette saison au Labo des Savoirs mais qui ne nous ont pas empêchés d'avoir quelques bons moments. Alors, autour de cette table, ces bénévoles ont participé à de nombreuses émissions. Eh bien, dites-moi, ce qui vous aura marqué en cette saison 2020-2021, un petit peu des enfers.
Je peux commencer.
Célie.
Moi, c'est la reprise en studio, quand on a pu enfin revenir, parce que enregistrer assise par terre dans mon entrée, parce que c'est là où ça résonnait le moins. C'était drôle, mais à bout d'un moment, c'était moyen confort. Mais la reprise en studio a été chouette, de pouvoir revoir du monde, de pouvoir refaire des choses avec les copains du labo et les copines.
Jérémy ?
Ben moi aussi, j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir revenir en studio. Je me souviens que c'était un dimanche après-midi, ensoleillé. Après, on était faire un petit pique-nique sous les bords de l'Erdre. C'était vraiment chouette. Après, dans la distancielle, je trouve que tout n'était pas à jeter. En tout cas, moi, cette année, j'ai beaucoup aimé, vu que les gens étaient plus accessibles à distance, faire plus d'interviews et finalement compenser ce manque de chaleur humaine en tentant plus de chroniques qui n'étaient pas uniquement basées sur la recherche documentaire, mais sur aussi le fait de parler avec des vrais gens et puis un peu ensuite recouper ce qu'ils nous disaient. Donc c'est vrai que c'était une année assez difficile parce que à distance c'est impossible d'avoir vraiment de la spontanéité des interactions, donc ça fait des choses qui sont très monobloc et très qui perdent un peu la saveur et le grain de folie du labo, mais j'ai quand même appris des choses et puis fait des belles rencontres, donc tout n'est pas acheté.
Floriane ?
Alors moi effectivement le premier réenregistrement en studio, j'ai trouvé ça vraiment trop trop bien, avec tous les à côté aussi et ce qui s'est passé pendant l'enregistrement. Et puis le reste, je pense être un peu plus égocentrique, mais c'est vrai que j'avais commencé l'année en me disant que je voulais gagner en aisance dans la lecture de texte, en me détachant de la lecture, et je trouve que malgré la distance, j'ai réussi à progresser là-dedans. C'est aussi une progression que j'ai observée chez d'autres bénévoles, et je trouvais ça vraiment chouette de se voir tous évoluer aussi, parce qu'effectivement quand on arrive à la radio au début, on sait pas faire et on apprend, et il y a une marge de progression, et je trouve ça vraiment top. Donc ouais, le côté progression, donc je suis vraiment contente pour moi et puis pour les autres du labo aussi.
Jérémy ?
Et puis c'était aussi la première saison avec notre nouvelle rédac-chef, et je trouve que pour des situations aussi merdiques et cataclysmiques qu'on a pu vivre cette année avec beaucoup de choses qu'on a dû faire un peu en dernière minute, elle s'en est tirée un truc de dingue. Donc bravo à elle.
Merci.
À son courage, sa passion, à sa patience.
Et au café. Et toujours, toujours remercier
une énergie de très, très, très grande réserve.
Ça me fait plaisir que vous dites tout ça. Parce que
c'est des cœurs avec les doigts.
Et on fait des cœurs avec les doigts et on fera des câlins après. On sera tous vaccinés. Mais oui, c'est vrai que c'était une année difficile, mais qui a eu des bons moments. Et j'ai envie de dire à tout le monde, surtout ceux qui nous écoutent, sur Prune, en podcast après, ou qui peuvent nous croiser sur des événements, de venir tester, de ne pas avoir peur d'essayer de parler dans un micro, à la radio. Il y a plein de sujets toujours très intéressants dont on a envie de parler, et il y a la place. Il y a la place pour tout le monde, et de venir au labo, être bénévole, s'enjailler, faire des câlins, et apprendre des choses, et continuer à progresser sur plein de points.
Et finalement, à travers ces enregistrements et tous les à côté, on a flirté avec plein de nouveaux possibles, qui étaient aussi super chouettes.
Et pour de nouveaux possibles, rejoignez le Labo des Savoirs pour la saison 2021-2022. C'est déjà la fin de cette émission et de cette saison au Labo des Savoirs. J'aimerais bien sûr remercier tous et toutes les bénévoles de cette année, à commencer par ceux et celles ici présentes pour cette émission, Célie, Floriane, Nolwenn et Jérémy. J'aimerais remercier également le bureau de cette belle association qu'est le Labo des Savoirs, avec Lorraine, Claire et encore Jérémy, ainsi que toutes et tous les autres, Aurore, Hélène, Valentin, Marie, Sophie, Maxime, Agathe, Paul, Mathis et Adrien. Merci aussi à toute l'équipe de Prune avec qui nous partageons les bureaux, les studios et le frigo. Merci à tous les partenaires et structures sans lesquels le labo n'existerait pas. Et on se donne rendez-vous en octobre 2021 pour la reprise de la saison et pour la fête de la science. En attendant, Retrouvez nos émissions sur labodessavoirs.fr et les plateformes de podcast, ainsi que toutes nos autres productions. Très bel été, prenez soin de vous et on se retrouve à la rentrée au Labo des Savoirs.
Radio G 101.5 FM.